essentiel, c'est ce qu'il y a à faire et ce sur quoi il y a à le faire. Donc vous avez le modèle statique, c'est ce qu'il y a à faire, et le modèle dynamique qui représente ce sur quoi il y a à le faire. D'accord ? Et donc nous avons une seule instruction vectorielle qui s'appelle call vector unit. Donc à partir du moment où vous avez un contrôle bloc qui vous définit ce qu'il y a à faire, etc. Donc il y a transfert de ce contrôle bloc à l'intérieur de l'automate dont je viens de vous parler, et ensuite il y a interprétation à la volée de l'opération vectorielle. Alors quels sont les problèmes au niveau des machines vectorielles ? Eh bien, le problème des machines vectorielles a toujours été, sera toujours et ne peut être autrement que la chose suivante. Premier point, le problème du modèle de Hockney. Quand vous avez une opération vectorielle, for i égale machin, table de i égale table de j multiplié par 7. Bon, c'est une opération vectorielle. Cette opération vectorielle va avoir un temps de démarrage. C'est-à-dire que pour démarrer cette opération, il va falloir que vous chargiez un certain nombre de paramètres. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Vous pouvez prendre ici n égale 0 ou n égale 1. D'accord ? Et vous allez pouvoir avoir un temps. Combien de temps vais-je faire pour traiter cette opération ? Ça, ça va être le temps de start-up, le temps de démarrage. Et puis ensuite, quand vous augmentez la longueur des vecteurs, vous allez avoir ici le temps qui va croître plus ou moins linéairement. Je dis plus ou moins linéairement parce que ça dépend des architectures. Il y a des fois où vous avez un petit bout de cache. Bon, on ne va pas rentrer dans ces détails, mais globalement, c'est un truc qui va croître linéairement. Donc, ce qui va se passer, c'est que ici, on définit au niveau de ce modèle quelque chose qui s'appelle n1/2. Ce n1/2 va être tel que vous obtenez la moitié de la performance de la machine vectorielle. C'est-à-dire que c'est la taille du vecteur qui vous permet d'obtenir la moitié de la performance de votre système. Plus votre technologie est avancée, rapide, plus ce n1/2 sera faible. Ça paraît logique. D'accord ? Ben, quand on n'a pas une technologie du feu de Dieu, ben, on fait ce qu'on peut.
C'est pas le contraire.
Pardon ?
Ben, si tu me dis plus la technologie est avancée, plus la courbe va être vers le bas, et donc il va falloir aller plus loin pour être à la moitié.
C'est... Non, attends. Ce que je veux dire, c'est que plus la vitesse est grande, plus la vitesse est grande, plus le temps va être pour la longueur des vecteurs, si, excuse-moi, sera en baisse. Donc le n1/2, non mais le temps de démarrage va baisser considérablement. C'est au niveau de ce start-up, si, vous, si tu veux. Le start-up va être très très bas. Donc par exemple, quand on regarde...
La technologie a le même impact sur le temps de démarrage.
C'est au niveau du temps de démarrage.
Enfin là, on est vraiment à regarder les caractéristiques.
Bon, non, c'est des. Moi, ce que je te dis, c'est ce qui se passe actuellement sur toutes les machines que je connais, toutes les machines qui ont fait du vectoriel ou qui font du vectoriel et qui vont faire du vectoriel. Donc, ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est la chose suivante. Ici, imaginons donc que nous ayons une machine qui comporte à la fois une unité scalaire et une unité vectorielle. Donc cette machine a à la fois une unité scalaire et une unité vectorielle. Je suppose que la performance en vectoriel est de 100, que la performance en scalaire est de 2, par exemple. Que va-t-il se passer ? Ici, si j'ai 0% du temps qui est passé à faire du vectoriel, je vais avoir 100% de ma vitesse vectorielle. Ça paraît logique. Si j'ai un temps scalaire sur un temps vectoriel qui est très important, c'est-à-dire si je passe beaucoup plus de temps en scalaire qu'en vectoriel, je vais obtenir le temps, la performance scalaire. Ça paraît logique. D'accord ? Eh bien, quand on regarde cela, on a un problème, parce que plus la machine vectorielle sera rapide, et plus la performance par rapport à la performance crête sera mauvaise. Donc ça pose un problème philosophique. Donc comment résoudre ce problème philosophique ? Eh bien là, Georges Kerivel a trouvé un truc qui a consisté à dire la chose suivante. Imaginons que, au lieu d'avoir une unité scalaire, une unité vectorielle, nous mettions plusieurs unités scalaires, plusieurs unités vectorielles. Qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, à tout casser, si on est capable de traiter plusieurs problèmes en parallèle, par exemple, Ce qui va se passer, c'est qu'on va multiplier par n la performance de notre dispositif. Bien. Maintenant, qu'est-ce que ceci veut dire ? Ceci veut dire qu'on va multiplier le débit mémoire par n. Ce débit mémoire va être le prix de la machine. Donc, nous allons être obligés d'augmenter considérablement le prix de la machine. La solution qu'a prôné Georges Thérivel, qui est absolument fantastique, consiste à dire la chose suivante. Ici, imaginez que, au lieu de faire cela, nous disions il n'y a qu'une seule unité vectorielle. Cette unité vectorielle va être en time sharing par rapport à ces unités scalaires. Donc on a plusieurs unités scalaires qui traitent plusieurs programmes différents. Ce qui va se passer, c'est que, eh bien, on va optimiser la ressource vectorielle par rapport à ces ressources scalaires. Donc c'est tout simple, et là nous apercevons que globalement pour des problèmes classiques dans lesquels on passe 5 fois plus de temps en scalaire qu'en vectoriel, on obtient à peu près 70% de la vitesse vectorielle finale. Donc on obtient quelque chose de très très intéressant au niveau de ces performances en multiplexant donc une unité vectorielle sur plusieurs unités scalaires. Ok ? Donc Georges avait fait plein de simulations, en quoi tu avais fait ça ? C'était en QNAP, oui. Et ça avait été refait par le directeur de l'EDF qui ne croyait pas, et puis il les a refait, et puis il m'a dit c'est génial, c'est fantastique. Bon. Donc, au niveau des mémoires, pour alimenter une bébête comme ceci, comme le disait tout à l'heure Jacques, vous avez besoin de mémoire mammouth. Il faut être capable donc de délivrer beaucoup d'octets à votre unité vectorielle. La performance de votre unité vectorielle ne dépendra que du débit mémoire que vous allez lui donner. Vous allez avoir besoin de disques monumentaux et avec des performances de disques qui vont être elles-mêmes monumentales. Comment faire pour faire des disques extrêmement rapides ? Il y a deux solutions. Soit utiliser des disques avec plein de têtes en parallèle, soit, eh bien, nous avons déposé le premier brevet sur les RAID là-dessus, c'est-à-dire réaliser